France Culture.
Là, vous êtes dans une bibliothèque avec des ouvrages anciens. Mais ici, on peut rentrer de manière dérobée dans la salle d'Assemblée Générale.
Vous poignez dans un livre.
Exactement. Vous arrivez à l'arrière de la salle d'Assemblée Générale. C'est une petite porte dérobée qui permet de pouvoir entrer et sortir en toute discrétion pour d'éventuels retardataires, pour ne pas perturber les débats. Et qui est connue que des seuls initiés, puisqu'elle est très discrète.
Difficile de comprendre au premier abord le rôle du Conseil d'État. À la fois conseil du gouvernement, pourvoyeur de hauts fonctionnaires pour le cabinet ministériel, mais aussi juge de l'administration, il occupe une place centrale dans la vie de nos institutions. C'est pourtant son rôle juridictionnel, largement étendu depuis sa création, qui fonde sa légitimité. Le juge de l'intérêt général, c'est lui. Mais cela n'a pas toujours eu la même signification. Le Conseil d'État veillait initialement au bon fonctionnement de l'administration. Il vérifie aujourd'hui qu'elle n'empiète pas trop sur les droits et libertés des citoyens, en contrôlant les actes de la vie publique, de l'arrêté pris par le maire de votre commune à un décret du Premier ministre. Pour trouver cet équilibre, le législateur a confié le contrôle de l'État à un corps de hauts fonctionnaires qui en a une connaissance fine. Le Conseil d'État intervient donc en dernier ressort comme autorité suprême de l'ordre administratif et en miroir de la Cour de cassation. Les gardiens du droit, une série documentaire de Cyril Marchand et Véronique Samouilov. Épisode 2. Juger l'administration, le Conseil d'État.
Alors ici, vous êtes dans la plus grande salle du Conseil d'État. C'est la salle d'Assemblée Générale qui a aussi été construite au moment où le Conseil d'État s'est installé en 1875.
Cécile Vollerin, secrétaire générale adjointe du Conseil d'État.
Salle assez monumentale, très haute de plafond, avec une grande verrière. C'est ici que se délibèrent les projets d'avis sur les textes les plus importants qui sont soumis au Conseil d'État, donc par le gouvernement. Tous les projets de loi, obligatoirement, doivent être examinés par le Conseil d'État avant d'être transmis au Parlement.
Alors, je crois que la première fois que je suis entré au Conseil d'État, c'était pour être reçu par des membres de l'institution pour voir si je choisissais le Conseil d'État à la sortie de l'ENA. Mais la première fois vraiment marquante, c'est quand on est intégré, quand on a été nommé au Conseil d'État et qu'on franchit le porche pour la première fois en se disant « je rentre dans cette institution pour a priori une quarantaine d'années ». C'est un moment très émouvant, surtout quand on est d'origine modeste, que tout ceci était totalement inconnu quelques années auparavant. Donc voilà, il y a un moment de grande émotion quand on franchit ce porche. Didier Tabuteau, je suis vice-président du Conseil d'État.
Vous avez à la tribune la place réservée au vice-président du Conseil d'État, qui préside le Conseil d'État et qui préside les débats en Assemblée Générale. De chaque côté de lui s'installent les présidents de section. Vous avez une place ici qui est réservée au rapporteur du projet de texte qui est examiné par l'Assemblée, le secrétaire général également, et de l'autre côté, les commissaires du gouvernement, c'est-à-dire les représentants de l'administration, qui vont pouvoir répondre aux questions de la salle ou des présidents de section, pour pouvoir défendre leurs textes, expliquer les conditions dans lesquelles ils ont pris les textes et pourquoi ils font évoluer une législation en particulier.
Le Conseil d'État a en fait deux missions constitutionnelles, celle de juge, Cour suprême de l'ordre administratif, comme on dit dans notre jargon. Le rôle consultatif, c'est la deuxième mission qui nous est confiée par la Constitution. C'est-à-dire que nous examinons le projet qui nous est soumis. Et ce projet, nous regardons d'abord s'il est conforme à la hiérarchie des normes, si c'est une loi, si elle est conforme à la Constitution ou aux traités, aux conventions internationales. Si c'est un décret, s'il est conforme à la loi, aux traités, aux conventions, à la Constitution. Enfin voilà, cette pyramide des textes. Donc ça, c'est évidemment un rôle fondamental de conseil juridique. Et on peut dire au gouvernement, si c'est le gouvernement qui nous a saisis, Nous lui disons, voilà, ce texte pose un problème parce que ce projet de loi sur cet article n'est pas conforme à la Constitution, ou au contraire est conforme à la Constitution. Donc voilà, on donne un avis juridique qui peut aider le gouvernement, et le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est un vrai conseil, c'est pas une décision. Et puis, nous regardons si le texte est juridiquement, je dirais, correctement écrit pour qu'il soit le plus clair, le plus simple, le plus accessible possible, notre mission. Et troisième optique que nous avons dans cette fonction de conseil, c'est de dire, nous ne remettons pas en cause l'objectif du gouvernement. Dans son projet, il est issu du processus démocratique, donc il a envie de faire une réforme ou de modifier l'état du droit. En revanche, le moyen d'y parvenir, nous nous permettons parfois de lui dire « Cette formule que vous nous proposez nous paraît très compliquée, va être d'application difficile, laisse des zones d'incertitude. Nous vous proposons plutôt ce dispositif qui aboutit au même résultat, mais qui est différent. » Ce sont les trois modes d'action de notre fonction de conseil.
Alors, il y a aussi une particularité ici, c'est qu'on a... des très grandes fresques, des tableaux. Il y a ici d'un côté une scène animée comme un marché sur un port. Et en face de nous, ce qui pourrait être une forme de chantier de travaux publics. Là, le travail des champs.
Vous avez la représentation des travaux publics avec la place de la Concorde déjà à l'époque en travaux.
Cécile Vaulerin.
On peut voir des terrassiers... et une représentation de ce côté-là de l'agriculture avec les travaux des champs, donc les grands secteurs d'activité de l'époque. Et derrière la tribune, une représentation sans doute du travail intellectuel. C'était surtout pour rappeler aux conseillers d'État qui étaient là pour délibérer de toujours garder en tête l'effet concret des textes qui leur étaient soumis et de garder à l'esprit que toutes les décisions qu'ils prenaient, les avis qu'ils rendaient en toute indépendance devaient être faits au nom du peuple français et pour les Français.
Nous débattons beaucoup de nos affaires. Il y a beaucoup de points de vue qui s'expriment sur une affaire, sur l'interprétation de la loi, sur l'interprétation d'un règlement, sur la mobilisation de notre jurisprudence.
Thomas Janicot, rapporteur public.
Je me souviens très bien qu'en arrivant au Conseil d'État, on m'a toujours dit « Sois libre de prendre la parole, sois libre de voter dans le sens qui te semble le plus juste d'un point de vue juridique, et y compris si tu n'es pas d'accord avec un président de chambre, un président de section, exprime tes opinions, à condition évidemment d'argumenter, d'accepter de rentrer dans le jeu du débat contradictoire, parce que on ne se rend pas compte à quel point, dans nos méthodes de travail, la parole est libre, et à quel point, même pour les plus jeunes générations, dont j'espère faire encore partie avec mon âge de 32 ans, quand on arrive au Conseil d'État sans avoir la même expérience juridique que les plus anciens d'entre nous, c'est quelque chose qui est assez remarquable, je crois assez unique dans l'administration.
Dans la salle d'assemblée de l'aile consultative, on a pu remarquer que les magistrats se trouvaient devant un boîtier avec un micro et deux boutons pour le vote, pour et contre. Ici, il n'existe pas de position qui permettrait de ne pas se prononcer sur un avis. C'est une particularité sur laquelle j'aimerais bien vous entendre aussi.
C'est un point vraiment important. C'est presque le premier enseignement que l'on reçoit quand on entre au Conseil d'État ou dans la juridiction administrative, dans les tribunaux ou les cours. C'est que on ne s'abstient pas, on ne peut pas s'abstenir. Notre office, c'est de trancher le litige.
Didier Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d'État.
Alors, le litige peut être complexe, il peut être au contraire très simple, etc. Mais dans tous les cas, nous devons donner une solution. Parce que c'est comme ça qu'on garantit la paix civile, c'est comme ça qu'on apaise les tensions qui peuvent exister entre les parties. Vous imaginez une formation de jugement où tout le monde s'abstient ? Quelle est la décision de justice ? Donc, on n'a pas le droit de s'abstenir. On doit voter pour ou contre la solution qui est proposée. Et c'est extraordinairement intellectuellement exigeant, parce que ça veut dire qu'on a toujours cette responsabilité de prendre parti, de décider, de comprendre le raisonnement juridique qui est proposé et de se prononcer.
Une dernière chose aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'au-dessus des moulures, avec beaucoup de symboles sur la justice, des têtes de lion, il y a un certain nombre de dates qui sont dorées. Elles se trouvent au-dessus de l'inscription du Conseil d'État. Là aussi, c'est écrit en lettres dorées.
Alors, c'est les grandes dates qui ont marqué l'histoire du Conseil d'État. La première, c'est le 22 Frimaire en 8, c'est-à-dire le 13 décembre 1799, qui est la date de création du Conseil d'État par Napoléon. Une autre date très importante est celle du 24 mai 1872, qui est une loi qui va vraiment instaurer le rôle du Conseil d'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui notamment consacre la notion de justice déléguée, qui est en fait le fait que le Conseil d'État juge de manière indépendante les litiges entre les citoyens et l'administration. Donc ça, c'est une date vraiment très très importante et fondatrice pour le Conseil d'État, et qui a été inscrite dans la loi en 1872, qui est aujourd'hui une garantie constitutionnelle auquel le Conseil constitutionnel veille.
Le Conseil d'État a été créé en France par la Constitution de l'an 8, c'est-à-dire celle de 1799, dont une disposition importante, l'article 52, charge le Conseil d'État de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière contentieuse.
Stéphanie Hennette Vaucher, professeur de droit public.
Et Napoléon, il a pas du tout envie d'avoir ici un juge véritablement indépendant. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il pense une institution qui va être simultanément en charge de conseiller l'État, de conseiller l'action publique et de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever. Et en fait, pendant très longtemps, la fonction de juge, elle va rester très subordonnée, en fait, au regard du pouvoir politique. Et c'est pourquoi on parle de justice retenue, c'est-à-dire que le souverain, le chef de l'État, a donné au Conseil d'État la fonction de rendre justice, mais il retient un peu ce pouvoir qu'il lui a donné, en gardant d'une certaine manière le dernier mot. Et c'est seulement avec une loi de 1872 que on va passer à un modèle de justice déléguée, c'est-à-dire qu'on délègue pleinement au Conseil d'État la possibilité de rendre la justice en matière administrative, et donc il n'aura plus à soumettre ses projets de décision à l'aval du pouvoir exécutif.
Vous succédez, Monsieur le Vice-président, un homme qui porta ce titre et exerça cette fonction pendant près de 16 ans. Vous n'aurez pas une tâche facile.
Installation du vice-président du Conseil d'État par Michel Debray.
Le Conseil d'État,
1960.
Dont vous prenez la responsabilité, est au cœur de ses exigences politiques et administratives. Par leur fonction de conseiller, qui les font plus proches du pouvoir qu'ils ne le furent jamais, par leur fonction de juge, qui les place en toute indépendance devant des problèmes dont la solution est également plus grave que jamais, les membres de cette Assemblée continueront avec vous et grâce à vous les grandes traditions au service du bien public qui ont fait depuis tant d'années la gloire et l'honneur du Conseil d'État.
Pourquoi vous appelle-t-on vice-président ?
Alors, le terme de vice-président du Conseil d'État, c'est un héritage historique d'une époque où l'indépendance était différente.
Je dois vous remercier d'abord, Monsieur le Premier ministre, d'avoir bien voulu venir vous-même présider cette Assemblée et procéder à cette installation.
Aujourd'hui, les textes prévoient, dans le Code de justice administrative, que le vice-président du Conseil d'État préside le Conseil d'État.
Vous présidez bien, on ne s'est pas trompé de personne.
C'est bien le président du Conseil d'État, mais le titre de vice-président est demeuré. Et il reste quelque chose dans le Code de justice administrative qui dit que le Premier ministre ou le garde des Sceaux peut présider l'Assemblée du Conseil d'État, mais c'est une disposition qui ne s'applique qu'à des titres, à des fins protocolaires. Par exemple, l'installation du vice-président peut être faite par le Premier ministre ou le garde des Sceaux, mais quand on siège en formation consultative, il n'y a que les membres du Conseil d'État, et l'Assemblée générale, dans ce cas-là, est nécessairement présidée par le vice-président.
Soyez sûr, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, que je mesure pleinement le grand et redoutable honneur que m'a fait le gouvernement de la République en m'appelant à succéder à mon tour à tant d'hommes si éminents, que je mesure pleinement aussi le poids des responsabilités que je vais avoir à porter et que je les aborde, à vrai dire, avec la timidité qui convient à la grande tâche qui m'est confiée.
Le Conseil d'État, c'est le juge de l'administration. Donc il est en première ligne.
Patrice Pinozzi, avocat au Conseil.
Aujourd'hui, les principaux enjeux sont les risques d'atteinte qui peuvent être portés aux libertés des citoyens par l'administration. Donc, demain, vous êtes dans la rue, dans le cadre d'une manifestation, vous allez subir une opération de nassage, par exemple, vous allez rester bloqué pendant 15 ou 18 heures dans la nasse. Eh bien, cette action de l'administration, elle est susceptible de faire l'objet de recours devant le juge administratif et donc devant le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, il est aujourd'hui, en sa qualité de juge de l'administration, un des premiers garants des libertés fondamentales, et il a une responsabilité considérable à cet égard, parce que c'est lui qui va devoir trouver le juste équilibre entre la marge d'appréciation qui doit être laissée à l'administration pour pouvoir assurer la sécurité publique, pour pouvoir garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens, et le fait de ne pas pour autant porter une atteinte disproportionnée aux droits et aux libertés de chacun.
Alors, pour définir la place du Conseil d'État dans l'État de droit, il faut revenir à l'État de droit lui-même, parce que nous ne sommes qu'un maillon de cet État de droit.
Didier Roland Tabuteau.
Et quand je dis le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative d'une manière générale. L'État de droit, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des règles d'organisation de la vie en société qui sont légitimes. Quand je dis légitimes, c'est un mot très important pour moi. Ça veut dire qu'elles ont été élaborées comme la Constitution établie par le peuple souverain l'a décidé. Alors ça peut être par la loi, par un décret, par un arrêté, par une décision du maire. Voilà. Donc ça, c'est des règles légitimes. Deuxièmement, c'est des règles qui sont appliquées. C'est-à-dire que dans l'état de droit, l'administration, les pouvoirs publics se soumettent au droit, appliquent les règles qu'ils ont vocation d'établir, mais quand ils les ont établies, ils les respectent. Donc c'est le deuxième élément de l'état de droit. Et le troisième élément, on peut même le résumer, mais c'est évidemment un vrai résumé avec ses limites, c'est de dire, moi je crois qu'on est dans un état de droit quand tout le monde dans la société est convaincu que s'il y a un problème, un litige, un différend entre deux personnes ou entre une personne publique et une personne privée. Enfin, dès qu'il y a un problème, il y a un juge pour trancher le problème. Je crois que c'est ça, fondamentalement, l'état de droit.
Je vois une porte cachée là-bas, tout au fond.
On peut y aller si vous voulez. La porte par laquelle entrent les juges, qui sont déjà tous installés au moment où le public s'installe. Et c'est pour ça qu'au Conseil d'État, quand on est à l'heure, on est déjà en retard, parce qu'il y a une question de ponctualité qui est très importante, et donc il faut que quand la séance commence à 14h, tout le monde soit déjà installé pour que le public puisse rentrer. Alors là, vous voyez d'ailleurs des agents de grève qui sont en train de préparer la séance qui va débuter dans quelques minutes. Cette salle du contentieux qui est vraiment la salle de jugement du Conseil d'État. Donc vous voyez la tribune où se trouvent les juges, le président juste en face, devant le ou la greffière qui va suivre les débats, et de chaque côté la formation de jugement qui s'installe sur les fauteuils. Et donc vous avez des formations à 3, 9, 15, 17 juges pour les affaires les plus importantes. Et là, au pupitre, debout, le rapporteur public, qui est celui qui va prendre la parole à l'audience et qui va expliquer en fait et en droit les tenants et les aboutissants de l'affaire afin d'éclairer la formation de jugement dans la manière dont elle va pouvoir ensuite délibérer de l'affaire.
Alors, qu'est-ce qu'un rapporteur public et qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'on pourrait le résumer en deux verbes, expliquer et proposer.
Thomas Janico.
Le rapporteur public, c'est un juge qui est membre de la juridiction administrative, qui a vocation à prendre la parole lors de l'audience pour expliquer l'affaire aux juges qui seront amenés à trancher le litige concerné, c'est-à-dire la formation de jugement, mais aussi aux parties qui sont présentes à l'audience, qui sont représentées souvent par leur avocat, et aussi expliquer l'affaire au public. Donc concrètement, ça veut dire pour le rapporteur public d'expliquer les faits qui sont à l'origine de l'affaire, l'argumentation des parties, l'état du droit existant, ce que disent les textes, ce que dit la jurisprudence. Et puis, surtout, il doit proposer une solution pour régler le litige. Il ne peut pas rester neutre, se mettre en retrait, proposer, présenter l'affaire, montrer à combien elle est difficile, et puis après se remettre à la formation du jugement. Il doit toujours prendre parti et proposer de régler le litige dans un sens donné. C'est ça le cœur du métier du rapporteur public. Alors une fois qu'il a prononcé ce qu'on appelle des conclusions lors de l'audience publique, son métier s'arrête là. Et c'est très important de l'avoir en tête, le rapporteur public ne participe pas au délibéré et ne va pas voter, débattre du sens de la décision qui sera donnée. Ça, cela appartient à la formation de jugement et aux autres juges devant lesquels il a conclu. Voilà pour résumer en quelques mots le métier de rapporteur public.
Ici, vous avez le banc des avocats. Seuls les avocats au conseil peuvent prendre la parole pendant l'audience. Ils portent une robe. Et donc, ils sont ici. Et ici, sur ces bancs-là, rouges également, vous avez la possibilité pour le public de venir écouter les audiences.
Si vous me permettez, j'aimerais bien insister sur quelques caractéristiques essentielles du métier de rapporteur public pour bien comprendre cette figure particulière de la juridiction administrative. Le premier point, c'est que le rapporteur public, il est indépendant et qu'il est impartial. C'est donc pas un procureur, il prend la parole en son nom propre, il donne sa position et sa lecture du dossier, mais qui est une position individuelle, c'est son appréhension particulière du dossier, sa propre vision de l'affaire dont il fait état dans ses conclusions. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, et qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que le rapporteur public ne travaille pas dans une tour d'ivoire. Moi, ça m'arrive très souvent en tant que rapporteur public de pouvoir aller échanger avec mes collègues pour rediscuter d'un point de droit, de pouvoir affiner la solution en question, d'en discuter avec ma présidente de chambre. C'est un travail qui est véritablement collaboratif. Et c'est notamment en cela que son exposé est très utile pour les avocats qui sont à l'audience. Parce que ça leur permet d'appréhender le raisonnement qu'est en train de mener le Conseil d'État sur une affaire et du coup de pouvoir faire des observations à la barre qui vont être le plus utile possible à la fois pour la cause qu'ils défendent mais aussi pour l'information du jugement. Et en cela, je crois que le rapporteur public participe de la qualité du débat devant le Conseil d'État.
Il y a beaucoup de traditions, il y a assez peu de rituels. Par exemple, nous ne siégeons pas en robe, nous siégeons en costume ou en robe juridictionnelle. Alors, quels sont les points importants? Les points importants, c'est et qui est vraiment dans les gènes de cette maison, dans les traditions, c'est le respect de l'autre, c'est-à-dire écouter ce que l'autre va dire, la démonstration qu'il va faire, le raisonnement qu'il va faire. Moi, je peux vous dire que les séances dans lesquelles, après 40 ans de Conseil d'État, j'ai le plus de... Je me dis, vraiment, cette maison est vraiment exceptionnelle. C'est quand je rentre après avoir travaillé, mais... le dossier à fond, vraiment, d'avoir échangé avec les collègues, etc. De vraiment être allé au bout de la réflexion, d'y avoir travaillé des heures, voire des jours, selon les dossiers. Nous sommes en séance, et il y a un moment où, parce qu'un collègue présente les choses différemment, met un éclairage différent, je change d'avis. Parce qu'il a réussi à me convaincre. Et il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu de la même façon. Et ça, c'est la participation de tous à la délibération. C'est la collégialité au sens le plus profond du terme, la collégialité intellectuelle. Et ça repose sur le respect profond de l'autre interlocuteur.
Vous voyez ici, juste devant moi, une représentation allégorique de la justice, avec au-dessus une inscription latine « sum quique », qui veut dire « à chacun ce qui lui revient », et donc qui rappelle évidemment le rôle du juge qui doit peser les intérêts. Alors le juge administratif, il pèse les intérêts particuliers d'un côté et l'intérêt général de l'autre, ce qui rend son office particulier. Vous avez... des tentures rouges, des lustres, des dorures. Donc c'est vraiment, ça rappelle la solennité de l'acte de juger. Nous jugeons au nom du peuple français. Donc pendant toute la partie de l'audience, les portes que vous voyez là sont ouvertes et tout public peut rentrer, venir écouter. On referme les portes à la fin de l'audience, au moment du délibéré, qui là se passe uniquement entre les juges, dans le secret du délibéré, porte close.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? C'est effectivement pas simple à définir. Il y a des intérêts privés, on le voit bien. On a chacun des intérêts particuliers. Il y a des intérêts publics. On peut avoir tel ministère qui porte telle politique de développement de ceci et d'autres ministères, un autre ministère qui porte un intérêt public qui peut être par moments contradictoire, ou en tout cas ne pas s'adapter, je ne sais pas, entre le développement de l'industrie et le développement durable, il peut y avoir des éléments qui sont en voilà qui s'harmonisent pas naturellement et complètement. Donc il y a des intérêts privés, il y a des intérêts publics. Et l'intérêt général, c'est quelque chose qui surplombe et qui intègre les intérêts particuliers et les intérêts publics. C'est ce qui fait le sens de la vie de notre collectivité, tel qu'il a été voulu par ceux qui en sont l'expression, c'est-à-dire ceux qui sont issus du suffrage universel et des processus du suffrage universel.
La 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Et c'est un signe majeur de renouvellement qu'on ait fait du sport un chapitre de leur programme.
RDF 1946.
Il faut peut-être évoquer un aspect peut-être plus sociologique du rôle et de l'importance du Conseil d'État dans la structure de l'appareil administratif et étatique français.
Stéphanie Hennette Vaucher.
Puisque le Conseil d'État est évidemment un des corps les plus prestigieux, hein, qui est choisi par les mieux classés à la sortie de l'ENA ou de l'Institut National du Service Public aujourd'hui, c'est donc un corps évidemment très prestigieux, ce qui signifie que parmi les membres du Conseil d'État, il y a évidemment un certain nombre de membres qui font le choix de faire une carrière entièrement à l'intérieur du Conseil d'État, mais il y a également une très forte mobilité au sein de l'ensemble des positions clés de l'appareil étatique ou de l'action gouvernementale. Et il y a beaucoup de membres du Conseil d'État qui partent, alors bien sûr, dans des fonctions politiques, comme membres de cabinet, par exemple. Il y a des membres du Conseil d'État qui, historiquement, occupent des fonctions tout à fait centrales dans le fonctionnement de l'État. Je pense, par exemple, au poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui, à une exception près, depuis 1958, a toujours été occupé par un membre du Conseil d'État, et toutes sortes d'autres directions juridiques de ministères et positions clés dans la fabrication de l'action publique. Et ça, c'est un point qui est très important parce que, en réalité, il faut bien voir que si on décentre le regard et qu'on regarde pas seulement l'institution Conseil d'État, mais le positionnement de l'ensemble des membres du Conseil d'État au cœur de l'action publique, mais y compris à l'extérieur du Palais Royal, si on peut dire, on voit que, évidemment, le Conseil d'État joue un rôle très important.
Ces magistrats ou ces fonctionnaires qui ont été formés, qui ont prêté serment, ils remplissent leur mission en étant d'autant plus, sensibles et, je crois, capables d'appliquer la loi avec cet objectif d'intérêt général, qu'ils ont également connu des fonctions dans les services publics. Et ça, c'est une particularité de la juridiction administrative où les juges, qu'ils soient magistrats ou fonctionnaires, ont des expériences administratives. Il y a même une obligation de mobilité qui conduit à exercer des fonctions, à comprendre comment, de l'intérieur, le service public fonctionne, comment ça se passe dans la vie réelle, dans les administrations, dans une collectivité territoriale, dans un service public, dans un ministère, etc.
Et pour revenir à la question de la partialité, ça a évidemment un impact très grand, puisque, en réalité, du fait de cette forme de multipositionnalité des membres du Conseil d'État au cœur de l'État, il n'est pas rare que, lorsque le Conseil d'État juge l'administration, des membres du Conseil d'État qui siègent comme juges retrouvent comme partie adverse des membres du Conseil d'État qui sont là pour représenter la direction juridique d'un ministère, la position d'une autorité administrative indépendante ou telle position gouvernementale à laquelle, en réalité, ce sont des membres du Conseil d'État qui ont largement pris part.
Ah, Je pense que la musique, elle vient de la place du Palais Royal. Alors oui, d'un côté, vous avez la place du Palais Royal, qui peut effectivement donner lieu à quelques festivités. Et de l'autre côté, vous avez les jardins du Palais Royal, où se tient souvent la Fashion Week, des événements, la Journée Européenne du Patrimoine. Et donc, ça montre aussi que le Conseil d'État est au cœur de la cité. Et que voilà, nous vivons au milieu des Parisiens, des touristes, de la vie de Paris.
Et juste devant nous aussi, on voit qu'il y a un très grand balcon en pierre de taille. J'ai l'impression que si on le prend, on peut à peu près faire tout le tour du Palais Royal. Et en fin de compte, on pourrait finalement passer devant un peu du gouvernement avec le ministère de la Culture, un peu devant la Comédie Française, un petit peu devant le Conseil constitutionnel. En fait, vous êtes ici tous reliés.
Tout à fait. On peut passer d'une institution à une autre. Alors, vous verrez des potelés qui séparent quand même formellement les différents lieux. Mais théoriquement, on peut faire tout à fait le tour.
Le Conseil d'État, il est effectivement le connaisseur du droit. Il est là pour, le cas échéant, rappeler au gouvernement les règles de droit qui doivent encadrer l'action gouvernementale, le respect des droits et libertés fondamentales, par exemple, qui dérivent soit de la Constitution, soit des conventions internationales, etc. Donc, il est là pour ça, pour rappeler le gouvernement à l'ordre, le cas échéant. Mais il est aussi là, Conseil d'État, pour conseiller l'État pour, d'une certaine manière, accompagner l'action publique et la rendre possible. Et donc, très souvent, en fait, ces avis sont particulièrement mesurés. C'est-à-dire que le Conseil d'État va essayer de naviguer une ligne de crête qui consiste pour lui à ne pas se prononcer sur l'opportunité de telle ou telle réforme qui est envisagée par le gouvernement, tout en essayant néanmoins de préserver le respect de toute une série de principes juridiques. Et un exemple particulièrement éloquent, c'est effectivement la suite des 6 avis qui ont été rendus par le Conseil d'État sur les 6 lois qui, après novembre 2015, sont venues successivement proroger l'état d'urgence antiterroriste qui, il faut le rappeler, est resté en vigueur pendant presque 2 ans, de novembre 2015, les attentats, à novembre 2017, moment auquel, formellement, l'état d'urgence a été levé.
Pour 551, contre 6,
France 3,
l'Assemblée nationale a adopté.
Novembre 2015.
Le prolongement de l'état d'urgence adopté à la quasi-unanimité. Seulement 3 députés écologistes et 3 socialistes ont voté contre. Auparavant, le Premier ministre a justifié ce texte. Il donne des pouvoirs de police exceptionnels pour lutter contre la menace terroriste.
L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. Fusil d'assaut, décapitation, bombes humaines.
Face à toute personne présentant une menace sérieuse, la loi prévoit d'élargir l'assignation à résidence. Le recours au port d'un bracelet électronique pourra être étendu. Interdiction pour ces personnes d'entrer en contact avec des individus soupçonnés de préparer des actes pouvant porter atteinte à l'ordre public. Enfin, dès aujourd'hui, les policiers sont autorisés à porter leurs armes, même en dehors des heures de service.
Donc 6 fois de suite, le gouvernement a jugé utile ou a jugé nécessaire de poursuivre l'état d'urgence, c'est-à-dire ce gouvernement par un régime d'exception. Et le Conseil d'État, à chaque fois, a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'état d'urgence n'était pas un jouet anodin, que l'état d'urgence n'avait pas vocation à devenir un mode normal de gouvernement, qu'il ne pouvait être que temporaire. C'est évidemment un rappel très important auquel le Conseil d'État a procédé, mais c'était aussi assez étrange de voir le Conseil d'État, au fil de 2 années, 6 fois de suite, répéter un peu comme un mantra la même formule selon laquelle, attention, l'état d'urgence n'a pas vocation à devenir permanent. Dans le mouvement même où le Conseil d'État, en fait, ne s'opposait pas, sur le fond, à la mesure de prorogation qui était envisagée par le gouvernement. Donc on voit bien ici toute l'ambivalence de cette position du Conseil d'État. Il ne va pas jusqu'à dire « je formule un avis négatif sur ce énième projet de prorogation de l'état d'urgence ».
Moi, c'est Joël de Manjou. J'ai la quarantaine. J'habite à Commercy, dans le Grand Est. J'ai habité quelques années à Paris. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai eu les mesures qui nous occupent aujourd'hui. Je me suis engagé très tôt après la fac. On était dans les fins de l'altermondialisme. Donc je me suis retrouvé dans des manifs de 10 000, 20 000, 100 000 personnes dans le début des années 2000. Et c'est assez tardivement que je me suis engagé sur les questions environnementales. Et du coup, je me suis retrouvé un peu comme beaucoup de gens au début des années 2010 à m'engager en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et donc j'ai fini par m'installer moi à Bure en 2016. Voilà.
Alors, expliquez-nous pourquoi vous vivez à Bure et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas.
À ce moment-là, on cherchait un peu un endroit où organiser un gros événement. C'était un peu un tournant. On avait eu les années post-Sarkozy, une répression quand même assez sévère à Notre-Dame-des-Landes en 2012 avec l'opération César, qui avait beaucoup marqué et les chairs et les esprits. On s'était dit, on a envie de marquer un peu un moment et d'organiser un campement de rencontres pour faire le bilan et les perspectives. Et surtout, on avait la COP21 qui suivait, donc en fin d'année. À ce moment-là, moi, j'ai pas de casier judiciaire. J'ai pas de rapport avec les autorités policières. J'ai été contrôlé de nombreuses fois dans le cadre de mon engagement pendant des années. J'ai pas eu de condamnation. J'ai eu des gardes à vue. Par exemple, j'avais fait des actions anti-pub. On se retrouvait embarqué après une action sur deux. Et ça m'est arrivé quand même un bon nombre de fois d'avoir des vérifications d'identité, mais pas des gardes à vue forcément. Mais j'en ai eu une ou deux avant. Et pour moi, c'est du renseignement à l'usure. Par ailleurs, dans les procédures du renseignement, il y a la prise d'informations sur le terrain. C'est l'action des agents de renseignement territoriaux quotidiennes. Ils prennent des notes sur les événements. Ils se déplacent. Et toutes ces notes de renseignement n'ont pas de valeur judiciaire, donc peuvent pas être utilisées dans des procès au pénal, mais ont une valeur en procédure administrative pour prouver qu'il y avait quand même des suspicions, des faisceaux d'indices qui tendaient à dire que... Et plus il y a ces petites notes qui disent « a été repéré dans la manif là », qui a été l'occasion d'ailleurs de troubles à l'ordre public, a participé à la réunion là, où nous avons repéré un certain nombre d'individus radicalisés. Et plus il y a ces petites notes blanches qui s'allument, qui disent « on a vu à nouveau cet individu », plus on va essayer de savoir qui est cet individu. Et donc c'est un cercle vicieux en fait, la surveillance s'auto-entretien dans ce truc. Alors, là, j'ai comme ça, ça vous montre un peu. Et donc, voilà, ça, c'est typiquement une note blanche.
Donc, c'est une feuille A4 recto verso, pas beaucoup de lignes. Ça commence par une date, il y a votre nom. Alors, il y a quelques dates où on vous aurait vu. Place de Stalingrad dans le 19e arrondissement à Paris, en mai 2011. Le lendemain, vous avez été vu à nouveau à Paris, dans le même arrondissement. Et en dessous, on voit une photo de vous.
En fait, on me voit debout dans la rue, un rassemblement, il ne s'est rien passé. Et on dit juste que, parce que ce rassemblement est en soutien à Notre-Dame-de-Landes, ça a fait un faisceau de suspicion de mon engagement radical.
Et la note est terminée.
Et donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui crée tout un récit, qui devient une vision judiciaire à la fin, en fait, qui explique pourquoi il y avait des bonnes raisons de...
Ce qui est intéressant avec le cas de Joël de Manjou, c'est que, évidemment, quand on a pensé l'état d'urgence et les mesures exceptionnelles
Patrice Pinozzi, de contrainte, avocat au Conseil,
on les a pensées essentiellement pour lutter contre le terrorisme. Et donc, on voit bien que, à travers la question de l'état d'urgence, il y a eu, d'une façon plus générale, un besoin qui était un besoin de garantir la sécurité au sens large, et ce, indifféremment du fait qu'il y ait une menace, qu'il soit une menace terroriste ou pas.
On a donc les attentats du 13 novembre.
Joël de Manjou.
Donc Bataclan. Et donc ensuite, on a l'état d'urgence qui est proclamé. On a toutes les manifestations qui sont interdites pour la COP21.
Et 20 novembre 2015.
Ouais, 20 novembre 2015, c'est ça. Et le 23, le gouvernement français signale à la Cour européenne des droits de l'homme que dans le cadre de l'état d'urgence, elle va devoir attenter aux libertés individuelles à titre exceptionnel dans le cadre de l'état d'urgence parce que ça le justifie.
Alors l'état d'urgence, c'est un régime dérogatoire qui, en fait, va accroître considérablement le pouvoir du gouvernement à des finalités de sécurité, d'ordre public. Donc le gouvernement est habilité à prendre des mesures restrictives des libertés qu'il n'aurait pas le droit de prendre en temps normal. Et donc, c'est effectivement un régime d'exception ou un régime massivement dérogatoire. Est-ce qu'il est contraire à l'état de droit ? Ça, c'est une question intéressante, parce que en l'occurrence, entre 2015 et 2017, en particulier pendant l'état d'urgence antiterroriste, qui a été maintenu en vigueur pendant près de 2 ans, toutes les autorités gouvernementales, Premier ministre, chef de l'État, mais aussi au Conseil d'État, ont pris le soin de dire que l'état d'urgence n'était pas le contraire de l'état de droit, que l'état d'urgence étant prévu par l'état de droit, il était compatible avec l'état de droit, et même en période d'état d'urgence, il y avait un contrôle du juge sur les mesures, etc. Ce qui ne résout pas la question de savoir si est-ce que c'est l'état de droit qui impose ces standards à l'état d'urgence, ou est-ce que, avec les expériences répétées de l'état d'urgence qu'on a eues en France depuis 2015, on n'a pas plutôt assisté au mouvement inverse, c'est-à-dire l'état d'urgence qui pèse sur l'état de droit et qui en redéfinit à la fois les contours et les standards.
Donc nous, on apprend que les manifestations sont interdites. On en a quand même des très importantes qui ont été préparées pendant un an par un vaste pont de la société civile, avec une coalition climat, avec 400 organisations qui se sont organisées pendant un an pour des manifestations à ce moment-là. Et on en attend une, notamment le 28 novembre à la Place de la République. Et tout est interdit. Et donc on attendait quand même des dizaines de milliers de personnes. Donc les enjeux en termes d'ordre public étaient gigantesques. Évidemment, l'État français pressurisé par l'état d'urgence dit on a autre chose à gérer que ça dans ce moment-là. Sauf que ça fait partie de la nécessaire libre expression de la société civile en fait.
France Inter, novembre 2015.
Journal. Serge Martin, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous. Paris et la France sous très haute surveillance à la veille de la conférence sur le climat. État d'urgence en France, mesures de sécurité autour de la COP21. Conséquence, toutes les manifestations de rue sont interdites dans la capitale jusqu'à lundi soir, aux grandes dames de certaines associations qui n'hésitent pas à parler de dérapage.
Le lendemain matin, je suis réveillé par un appel de mon frère qui me dit il y a des perquisitions qui sont en train de tomber dans des squats à Paris. Là, je passe devant ma fenêtre et je vois des gens qui sont debout en face de chez moi. Du coup, je suis sorti et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes derrière moi qui me suivaient. À ce moment-là, j'ai compris que vraiment, je risquais quelque chose, mais je savais pas quoi. Et j'ai ma propriétaire qui m'appelle, affolée, qui me dit « Il y a 20 policiers dans ta cage d'escalier, qu'est-ce qui se passe ?» T'es chez toi et ils veulent absolument te voir, ils veulent te voir tout de suite. Et du coup, à 16h, je me retrouve au commissariat de Vanves. On me fait monter tout de suite dans le bureau du commissaire de police, qui me remet le papier que j'ai là. Il m'a dit ça vient du ministère de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Moi, je peux rien faire, je suis juste là pour vous le remettre. Et là, j'ai écrit, pris connaissance, le 26-11-2015, refus de signature. Je refuse de signer ça, en fait.
Dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire, face à la menace terroriste, l'exécutif, donc le ministère, s'est vu autorisé à pouvoir décider que telle ou telle personne devait être assignée à résidence, c'est-à-dire devait rester chez elle, à partir du moment où elles étaient susceptibles de présenter une menace sérieuse à l'ordre public. C'est ce qui est arrivé à Joël Domanjou, c'est-à-dire que Joël Domanjou était un militant écologiste. Il a été considéré qu'il présentait, ou en tout cas que le fait qu'il puisse avoir la liberté de ses mouvements était de nature à caractériser un risque de trouble sérieux à l'ordre public.
Considérant que M. Domanjou, Joël, s'est déjà illustré par le passé par sa participation à des actions revendicatives violentes, que l'intéressé participe activement depuis plusieurs années aux actions menées contre les représentations de l'État, en particulier la police, la justice et l'administration pénitentiaire, ainsi que contre les symboles du capitalisme et notamment contre les établissements bancaires, et blablabla, mais ça continue, que l'intéressé aujourd'hui, membre de l'ultra-gauche francilienne, etc. Donc tout ça, c'est basé sur les notes qu'on a vues tout à l'heure. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ces notes pour établir ça, et donc, notamment, Monsieur Domanjou, Joël, participe aux réunions préparatoires de ces actions en vue de la COP21. Donc oui, j'ai participé aux réunions d'organisation de la mobilisation contre la COP21, c'est vrai. Et moi, je me défends pas d'avoir un engagement depuis des années, c'est vrai.
Et ça se termine par...
Monsieur de Manjou est astreint à résider sur le territoire de la commune de Malakoff, sous réserve des déplacements qu'il doit effectuer en application de l'article 2, c'est-à-dire se présenter 3 fois par jour, à 9h, 13h et 19h30 au commissariat de police de Vanves-Malakoff. C'est à 20 minutes de chez moi. Et doit demeurer tous les jours de 20h à 6h dans les locaux où il réside, donc chez moi. Ces trois moments de pointage, c'est redoutable. En fait, on passe son temps à regarder la montre parce qu'on n'a pas le droit à plus d'un quart d'heure de retard, en fait. Sinon, le commissariat vient nous chercher, en fait. Et potentiellement, on se retrouve immédiatement au tribunal judiciaire, cette fois-ci, condamné à 6 mois d'emprisonnement. Et à côté de ça, moi, je me suis senti vraiment aussi violemment... Enfin, ce truc de pas pouvoir me défendre, c'est pas comme si on m'avait arrêté, amené devant un tribunal. Parce que là, devant le tribunal, tout de suite, je me défends. Là, on me dit, pendant 17 jours, voilà, on vous afflige ça et vous pouvez... Faut le faire.
Quand un citoyen se trouve devant une décision qui atteint ses libertés fondamentales, quels sont ses moyens d'agir devant le juge administratif ?
Alors, il y a différents moyens d'agir. Il peut d'abord contester tout simplement la légalité de la mesure par le biais d'un recours qu'on appelle devant le juge administratif un recours pour excès de pouvoir. Évidemment, la difficulté de ce type de recours, c'est sa temporalité. C'est un recours qui peut prendre du temps. Et depuis un quart de siècle, il y a une autre voie très utile qui est la voie du référé de liberté. C'est-à-dire que le référé, comme son nom l'indique, c'est une procédure d'urgence. Et donc, il est possible, lorsque on fait l'objet d'une pratique administrative dont on estime qu'elle est gravement attentatoire à l'une de nos libertés fondamentales, on peut saisir le juge administratif par le biais d'un référé de liberté. Cadre dans lequel ce juge administratif peut prononcer toute mesure de nature à faire cesser l'atteinte à une liberté fondamentale.
Alors nous sommes intervenus, enfin le cabinet est intervenu en sa qualité d'avocat habituel de la Ligue des droits de l'homme. Il y a eu une action immédiate, référé liberté, à très bref délai, à 48 heures, et bien le Conseil d'État a examiné cette mesure. Et il l'a trouvé suffisamment justifié et proportionné, donc il l'a validé. Il a dit, d'abord, on peut effectivement assigner à résidence une personne pour des raisons qui sont sans lien avec la menace terroriste. À partir du moment où il y a un risque de trouble à l'ordre public suffisant, eh bien, on peut utiliser l'assignation à résidence. Et deuxièmement, il a été considéré que ce risque était suffisamment caractérisé, démontré par l'administration, puisque... il y a la possibilité de sortir, c'est une contrainte, une limitation de la liberté, mais pas une privation de liberté. Ce qui est intéressant de noter, c'est que précisément, après avoir épuisé toutes les voies de recours, après avoir fait tous les recours possibles en France, eh bien, Joël de Manjou et son frère Cédric, qui avait été assigné à résidence en même temps que lui, ont fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Et Joël de Manjou a obtenu, finalement, la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, là encore une fois, 7 ans, 8 ans plus tard, à un moment où l'état d'urgence sécuritaire était déjà largement terminé, et la Cour européenne des droits de l'homme a regardé les éléments et a dit, moi je considère que en réalité c'était pas justifié, il y a eu une atteinte donc disproportionnée qui a été portée à ces droits.
Ça a quand même été reconnu l'an dernier que dans tout ce qui a été amené par l'État, il n'y avait pas des moyens suffisants pour établir que ça justifiait une mesure d'assignation à résidence.
Voilà. Les notes blanches, ça suffit pas.
Et les notes blanches, ça suffit pas. Et que par conséquent, ça condamnait l'État français à me verser des indemnités qui n'ont pas été énormes. J'ai 1500 euros.
Cette expérience de l'état d'urgence sécuritaire entre 2015 et 2017 est aussi riche de sombres enseignements. C'est-à-dire que ce qu'on a vu entre 2015 et 2017, c'est non seulement un état d'urgence durablement ancré au cœur de l'action, du paradigme de gouvernement en France, mais c'est aussi un état d'urgence qui est massivement sorti de son lit. C'est-à-dire qui a été utilisé bien au-delà de la lutte contre le terrorisme.
Nous vivons quand même aujourd'hui avec le spectre d'une arrivée au pouvoir de gouvernements qui, par nature, peuvent être beaucoup moins attachés aux libertés fondamentales de tous les citoyens que ceux que nous connaissons actuellement. Et il faut être très attentif à ne pas laisser aujourd'hui se créer les outils de notre asservissement de demain. Qu'est-ce que c'est que de présenter un risque à l'ordre public lorsque ce risque il est apprécié par un ministère de l'Intérieur qui est un ministère populiste et qui a une ambition de limiter l'action très certainement de ses opposants politiques. Donc, certes, il y a toujours un juge. Certes, il y aura toujours le Conseil d'État qui pourra, le cas échéant, lever ce type de mesures. Mais on voit bien que, à partir du moment où on accepte le principe même de ce type de restriction des libertés, à partir du moment où on les fait entrer dans notre droit, on prend un risque pour nos libertés, peut-être pas tout de suite, mais très certainement demain, un risque de dérive et d'atteinte non plus aux libertés de certains, mais bien aux libertés de tous.
Là, on arrive dans la partie qui est réservée à la fonction consultative du Conseil d'État. Et vous voyez notamment que la moquette a changé de couleur. De bleu, elle est passée à rouge, ce qui est une indication pour se repérer dans le Palais Royal. Dans la fonction consultative du Conseil d'État, vous avez 5 sections administratives qui se répartissent en fait tous les domaines des politiques publiques. Vous avez par exemple la section de l'intérieur qui va traiter des libertés publiques, des textes sur la police. Vous avez la section des travaux publics qui va avoir à connaître des projets de textes sur l'urbanisme, sur l'énergie, sur les transports par exemple. La section sociale pour tous les textes qui relèvent par exemple de l'assurance maladie. La section de l'administration, par exemple des textes relatifs aux droits de la fonction publique. Et la section des finances qui va par exemple étudier les projets de loi de finances. Alors aujourd'hui on est mercredi après-midi et c'est le jour où il y a des formations de jugement qui se réunissent et qui donc peuvent siéger dans des salles qui sont des salles de section administrative. Donc là c'est une formation de jugement de chambres réunies, des premières et quatrièmes chambres réunies. Là, vous avez par exemple une requête d'un syndicat qui demande au Conseil d'État d'annuler un décret qui est relatif aux modalités d'autorisation et de prise en charge des médicaments.
Quand on regarde les décisions du Conseil d'État, elles sont souvent très médiatisées. On a souvent l'impression que le Conseil d'État se prononce sur des enjeux systémiques, des politiques publiques extrêmement importantes, et on en a eu des exemples récents. Mais le juge administratif et les 200 000 décisions qu'il rend chaque année, c'est d'abord un juge du quotidien. Et le juge administratif, il connaît des litiges qui portent sur la délivrance d'un permis de construire, qui portent sur un conflit entre les services fiscaux et l'un de nos concitoyens, il peut porter sur un litige qui oppose l'administration et les caisses d'allocation familiale à un allocataire du RSA. Et je dirais même que vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver devant le juge administratif pour un de ces litiges quotidiens que, par exemple, devant le juge pénal ou d'autres juges qui ont à saisir des configurations qui sont beaucoup moins quotidiennes et régulières dans la vie de nos concitoyens.
Il y a une notion que le Conseil d'État invoque très souvent, mais qui ne définit jamais, c'est celle de liberté fondamentale. Et finalement, la liste des libertés fondamentales, on la découvre un peu au cas par cas, au fil des décisions, telle liberté rentre dans cette catégorie, telle autre n'y rentre pas. Est-ce que, finalement, au fil des années, sur le temps long, est-ce que le Conseil d'État, il a une conception des libertés fondamentales qui guiderait son contrôle ?
Je crois que les libertés fondamentales, elles sont... d'une part incluse dans la poursuite de l'intérêt général. Les litiges qui se présentent, c'est très souvent le terme de conflit n'est pas bon, mais un rapprochement de libertés qui s'entrechoquent. Eh bien, il faut bien qu'il y ait un arbitrage qui soit fait entre les deux. C'est le législateur qui le prévoit. Et lorsque nous sommes appelés à nous prononcer, comme le Conseil constitutionnel le fait, entre la loi et ses droits fondamentaux ou ses libertés fondamentales, eh bien, il y a une approche de l'équilibre entre les deux qui se fait au regard de l'intérêt général. Et liberté fondamentale et droits fondamentaux s'articulent toujours pour protéger les personnes d'une façon générale, au sens de l'intérêt général. La liberté d'aller et venir, elle conduit aussi à ce qu'il puisse y avoir des restrictions pour de cette liberté, pour garantir la sécurité dans certains cas, enfin, et qui est aussi un droit fondamental. Donc voilà, c'est cet équilibre entre les libertés et les droits fondamentaux que le juge applique quand il fait respecter la loi, quand il dit le droit.
Cette expression de liberté fondamentale, c'est le juge administratif qui en a la pleine maîtrise. Notamment le Conseil d'État a progressivement rempli cette catégorie en disant « ceci est une liberté fondamentale, ceci n'est pas une liberté fondamentale ». Alors, en réalité, je ne suis pas sûre qu'on ait affaire là à la plus grosse difficulté parce que, d'une certaine manière, le droit agit toujours ainsi. Le juge est maître de l'interprétation des catégories par lesquelles le législateur lui donne des compétences. Et par ailleurs, le Conseil d'État a été relativement généreux dans l'interprétation qu'il a eue de cette notion de liberté fondamentale. Il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, largement plus de 50 libertés qui ont été reconnues comme des libertés fondamentales. C'est une liste qui est très abondante. Hein. Il y a le droit d'asile, la liberté de circulation, le droit à la santé. Il y a vraiment une liste extrêmement longue de libertés qui ont été reconnues comme des libertés fondamentales. Et de manière récente, le droit de vivre dans un environnement sain. Donc on a vraiment une actualisation assez permanente de cette liste en réalité.
Il y a peut-être une particularité, alors je ne sais pas si ça tient à la présence de nombreuses horloges dans les salles du Palais Royal, mais le Conseil d'État vit sur l'idée que quand il y a une séance à 14h, on est là à 13h55. C'est une règle absolue, les séances commencent, et quand on est à l'heure, juste à l'heure, on est déjà en retard. Donc on est dans un respect du temps, et je crois, dans ce respect du temps, il y a aussi l'économie de parole. Ne dire que ce qui paraît utile au débat. Sur chaque question, je crois que vraiment, on y consacre ce qui est nécessaire, mais pas plus. Le respect du temps, c'est le respect des autres.
C'était « Les gardiens du droit », une série documentaire de Cyril Marchand, réalisée par Véronique Samuilov. Deuxième épisode, « Juger l'administration, le Conseil d'État ». Merci à Cécile Vollerin, Didier Roland-Tabuteau, Thomas Janicot, Stéphanie Hennette Vaucher, Joël Domanjou et Patrice Pinozzi. Merci à Lorraine Acquier pour son accueil au Conseil d'État et à Mathieu Févry-Sally, chercheur. Prise de son, Michael Simon, Étienne Collin, Bastien Varigaud et Nicolas Depagraf. Mixage, Manu Couturier. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Prochain épisode, Juger la loi, le Conseil constitutionnel.